Je suis ravie d'annoncer que nous serons à VivaTech ce mercredi 22 mai pour modérer la table ronde « Rendre sa place aux médecins vers une santé plus humaine grâce aux données » organisée par Abbott avec des invités exceptionnels. Alors n'oubliez pas, rendez-vous le 22 mai à 12h30 à VivaTech. Un grand merci à Abbott pour leur confiance.
Leçon 2. Transformer une contrainte en opportunité. Christelle a entamé ses études de droit avec une légèreté d'esprit, jonglant entre son intérêt pour le droit constitutionnel et quelques activités moins académiques comme le babysitting ou les cours d'anglais. Ses premières années de droit, ponctuées d'un redoublement assumé avec humour, marquent le début insolite d'une carrière prometteuse.
Si je me souviens bien, c'est à l'issue de la licence que mon père m'a annoncé qu'il partait 2 ans en Australie pour son travail, donc ma mère allait avec lui, et il me propose de l'accompagner. Parce que ce qui était très bien avec mes parents, ce que je n'ai pas dit dans le premier épisode, c'est que mes parents m'ont toujours, dès l'âge de 13-14 ans, m'ont toujours envoyé à l'étranger pendant les vacances, Allemagne, Angleterre, États-Unis, voilà. Ben pour apprendre la langue et aussi pour me faire mûrir. Et du coup, je m'étais rapprochée de la fac de Nanterre, qui évidemment m'a dit « Mais non, vous allez sortir, vous allez prendre une pause, ce ne sera pas reconnu de toute façon, enfin, de manière très agréable. » Je me dis, bah, tant pis, il ne sera pas reconnu, qu'est-ce que je vous dise. Et je suis partie, donc un an avec mes parents, à Melbourne. Et là, j'ai pris quand même un semestre d'études à l'université de Monash, dans l'état du Victoria, où là, j'ai fait aussi du droit constitutionnel, parce que ça m'intéressait d'avoir intellectuellement, de faire la comparaison entre le droit constitutionnel d'une république, la France, et le droit constitutionnel d'un pays comme l'Australie, qui est un peu particulier puisque c'est une monarchie constitutionnelle. La reine d'Angleterre à l'époque, maintenant le roi d'Angleterre, est le monarque de l'Australie. Donc avec un gouverneur nommé par le roi, il y a le premier ministre qui est élu par les habitants, bien évidemment, par les Australiens, mais c'était très intéressant pour moi de voir la différence. Et j'ai pris aussi des cours de droit de transport aérien. Ça m'intéressait, le transport. Donc, j'ai fait ça. Ça, c'était pendant 6 mois. Les 6 autres mois, j'ai travaillé dans des cabinets d'avocats comme stagiaire. J'ai fait serveuse dans un resto français. Enfin, je me suis un peu éclatée. C'était la belle vie en Australie. Il y a eu une anecdote qui n'a rien à voir avec mes études ou quoi que ce soit. C'est que je me suis retrouvée avec une amie française à aller voir Harry Connick Jr. en concert. C'est un de mes artistes préférés. Je l'avais déjà vu 4 fois en concert en France. Et je vais le voir en concert. Ça se passe évidemment super, comme à chaque fois que je vais voir cet artiste. Et après le concert, on est allé pour voir des autographes. Et homme bonne française, on n'a pas suivi la discipline australienne. Alors, les Australiens, ils étaient 2 par 2 derrière une table à attendre pour avoir les autographes, soit de Harry Connick Jr., soit de ses musiciens. Et nous, on a décidé de faire le tour, d'aller derrière pour voir un petit peu ce qui se passait. Et là, on est tombé sur les musiciens de Harry Connick Jr., qui étaient des musiciens qui venaient de la Nouvelle-Orléans. Donc, on a commencé à parler avec eux. Ils ont bien vu, bien entendu, qu'on n'avait pas l'accent australien. Donc, ils nous disent « Mais d'où venez-vous ? » Et on leur a dit « On est française. » Et des Américains de la Nouvelle-Orléans qui rencontrent des Françaises, c'est un peu particulier. Parce qu'ils ont tout de suite dit « Oh, mais vous êtes des cousins, en fait !» Eh bien, si vous le dites. Et là, ça s'est commencé à partir. On a commencé à discuter comme des fous, enfin bref. Et là, ils ont dit « Écoutez, vous faites quoi à 1h du matin ?» Comment ça, à 1h du matin ? Alors, si vous faites rien, vous nous retrouvez à l'Ivy Club, qui était le club le plus branché de Melbourne. Et vous venez avec nous, on va passer la soirée en boîte. Et donc, on s'est retrouvés à l'Ivy Club. On n'a pas payé l'entrée, by the way. Et on a passé la soirée avec les musiciens de Harry Connick Jr. dans le carré VIP du club, avec des stars de la télé australienne, à boire du champagne, à les écouter faire un bœuf. Donc voilà. Et je suis rentrée à 4h du matin, totalement excitée chez mes parents. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça en Australie. Ça m'a marquée.
Suite à son retour en France, Christelle reprend le cours de ses études universitaires. Après quelques péripéties, elle intègre finalement le DESS de droit des affaires internationales. Ce DESS marque un tournant décisif dans sa trajectoire professionnelle. Mais je préfère laisser Christelle vous en parler elle-même.
Donc j'ai fait mon DESS, j'ai passé 6 mois à Tours. Et au moment de trouver mon stage, donc j'avais un certain nombre d'offres de sociétés. Et j'ai eu une offre qui ne se refuse pas. J'ai eu une offre de passer 6 mois à Interpol, au service juridique. Pendant 6 mois, c'était même plus qu'être un stagiaire, j'étais agent d'Interpol, pour la petite histoire. Bref, c'était une opportunité en fait qui... Je me replongeais dans mon désir de devenir détective privé. Donc pour moi, c'était vraiment le Graal. Au passage, c'était l'un des rares stages pas payés ni rien. Je n'avais rien à faire. Je voulais travailler à Interpol. Donc j'arrive à Lyon et je commence à travailler pour la direction juridique. Donc là, c'est vrai qu'ils font des choses qui sont assez basiques. Enfin, c'est basique. C'est pas pour diminuer leur travail, mais c'était beaucoup sur les achats parce qu'évidemment, c'est... Interpol, c'est une organisation non gouvernementale qui a une, il y a des fonctions d'achat, il y a des fonctions de les bâtiments, les contrats, enfin, on va dire le travail classique d'un juriste qui pourrait travailler dans n'importe quelle autre entreprise. Par contre, j'ai eu beaucoup de chance parce que ils m'ont permis de travailler. Alors c'était les débuts d'Internet, c'était en 2000. Et j'ai pu travailler sur les noms de domaine. C'était le début des noms de domaine. Alors, Interpol était un nom de domaine qui a été évidemment pillé par beaucoup, beaucoup de malandrins. Donc, il y avait des actions à mener. C'était les tout débuts du droit des noms de domaine, avec un parallèle avec le nom de marque. Donc, c'était hyper intéressant parce que des choses que je n'avais pas vraiment vues dans mes études. Donc, j'ai fait des recherches. C'était vraiment passionnant. Et aussi l'environnement contractuel des organisations non gouvernementales, c'était le sujet de mon travail de fin de stage. Et c'est surtout, j'ai découvert vraiment des choses extraordinaires, donc des gens extraordinaires, parce qu'il faut savoir que Interpol, c'est un melting pot de centaines de nationalités différentes, avec des policiers qui viennent de partout dans le monde. Alors, il n'y a pas d'agent d'Interpol sur le terrain, je tiens à le dire. Ce qu'on voit dans les films, ce n'est pas vrai. En revanche, ce sont des data analysts. Donc, ils font des recherches, ils font des recoupements entre les dossiers de différents pays. Et j'ai découvert vraiment les premiers logiciels de recherche, de reconnaissance d'écriture ou de recherche de mots-clés dans différents dossiers. Donc, c'était absolument passionnant. Et j'ai discuté aussi avec une femme qui m'a vraiment marquée, qui était commissaire de police et qui s'occupait du grand banditisme à Marseille. Donc elle m'a raconté sa vie. Donc vous imaginez une femme très féminine, blonde, avec des ongles rouges, maquillée, et qui m'explique que Marseille, c'était à un moment donné la French Connection, la plaque tournante du trafic de drogue en Europe. Donc c'est voilà, j'étais dans un monde, je me suis vraiment éclatée pendant 6 mois, j'ai découvert des choses passionnantes. Et après, bon, j'ai quand même pris la décision de rejoindre là pour le coup mon petit ami qui est devenu mon mari depuis, qui lui est militaire et donc travaillait à Istres dans les Bouches-du-Rhône. Donc je l'ai rejoint. Là, mon prochain objectif était de trouver du travail. Et je voulais absolument, je ne sais pas pourquoi, parfois j'ai des idées arrêtées. Hein. Je voulais absolument travailler dans le transport. Donc c'était lié une partie de mes études en Australie. Parce que j'avais toujours en tête que oui, j'ai fait du droit des affaires internationales, donc du commerce, des affaires. Et quoi de mieux que le transport pour être au cœur de l'action ? Je voulais absolument rentrer à la CMA-CGM. Et j'ai fini par obtenir un entretien avec le directeur juridique et son adjoint pour rentrer comme juriste contentieux au sein de la direction juridique de la CMA-CGM. Donc ça, c'était en 2002. Et là, j'ai découvert encore un autre monde. Donc j'ai refait quelques formations de droit du transport maritime parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Mais ils ont quand même voulu me donner ma chance. Donc, je les remercie, hein, Georges et Mathias, si vous entendez. Merci beaucoup de m'avoir donné ma chance. Et nous avons collaboré pendant quelques années. Et j'ai beaucoup appris à leur contact. Donc, j'ai appris la négociation, j'ai appris le côté très rigoureux de tenir des contentieux. J'ai appris le contentieux, qui était une matière qui est absolument passionnante quand on est juriste. Et ça a été vraiment très, très intense. En 2005, enfin en 2004, mon mari, on venait de se marier, m'informe qu'il a une opportunité de partir aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'échange avec l'armée américaine. Et il me dit, on y va pas? Je dis, oui, on y va. Donc là, je pars avec mon mari, on se retrouve sur une base militaire, la base d'Edwards, qui est la base de l'étoffe des héros, si vous connaissez ce film. Et là, pendant un an, donc super cool pour mon mari. Il a volé sur plein d'avions. On s'est fait des tas d'amis. Et puis pour moi, ça a été professionnellement une contrainte que j'ai tenté de transformer en opportunité.
À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par MedCheck Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.